France Culture, 7h-9h. Les matins du samedi, Quentin Lafay.
Un rapport des Nations Unies daté du 4 mars confirme l'existence de violences sexuelles lors de l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre. Le rapport souligne notamment des viols et des viols en réunion. Mais comment ces viols justement sont-ils en particulier depuis les années 90? Ont-ils été reconnus peu à peu comme outils de guerre? Pour en parler, je reçois ce matin Céline Bardet. Bonjour. Vous êtes juriste internationale, spécialiste des questions de crimes de guerre, fondatrice de l'ONG Nous ne sommes pas des armes de guerre. Et pour commencer, que décrivait ce rapport qui a paru le 4 mars dernier?
Alors, c'est un rapport important, hein, puisque c'est le premier rapport international qui parle de la situation Israël-Gaza. Il faut rappeler aussi que ce bureau dirigé par Madame Pramila Patten ne fait pas d'enquête. Elle collecte des informations et elle établit des doutes raisonnables. En fait, elle considère qu'il y a des éléments suffisants pour établir que des crimes sexuels ont été commis le 7 octobre, peut-être à l'encontre des otages aussi. Et elle regarde aussi les allégations qu'il y a eu à l'encontre des Palestiniennes qui auraient pu être commis par l'armée israélienne. Et maintenant, il faut une enquête internationale, ou en tout cas une enquête indépendante.
Est-ce que ce rapport permet de quantifier l'ampleur de ces crimes?
Alors voilà, exactement, c'est-à-dire que non, le rapport ne quantifie pas. En fait, le rapport ne parle pas ni de l'ampleur, ni de la question de savoir si ces violences sexuelles ont été systématiques, c'est donc liées à l'ampleur, et par qui elles ont été commises. Et ce que demande Madame Pramila Patten, et ce à quoi nous travaillons, nous, en tant qu'ONG indépendante, en ce moment, c'est une véritable enquête qui va permettre d'établir ces éléments-là. Ampleur, systématisation, auteur, mode opératoire.
L'autre conflit, évidemment, actuellement, c'est celui de l'Ukraine, qui se passe en Ukraine. Est-ce que là aussi, des rapports mettent en lumière des crimes et des violences sexuelles importants?
Alors, en effet, en Ukraine, la différence en plus, c'est qu'il y a eu une coopération immédiate de l'Ukraine. Il y a des organisations internationales qui travaillent, la nôtre aussi. Donc, les crimes sexuels ont été mis en avant quasiment immédiatement. On sait qu'il y a eu des viols systématisés commis par l'armée russe, par certaines milices, on pense évidemment à Wagner, attaché à l'armée russe. Maintenant, c'est pareil, l'ampleur, elle est encore difficile à établir. Vous savez que la parole met beaucoup de temps. Et puis, dans les deux cas d'ailleurs, on est toujours dans un conflit en cours. Il ne faut pas l'oublier ça. Donc ça complexifie aussi les choses.
Alors je voudrais qu'on remonte avec vous, Céline Bardet, le fil du temps. Si les viols ont toujours été des crimes de guerre, le fait qu'ils soient reconnus comme tels a pris du temps. Le vrai tournant, c'est celui des années 90 et notamment la guerre en ex-Yougoslavie. Expliquez-nous pourquoi.
Alors la guerre effectivement, moi j'ai travaillé dans les Balkans pendant 12 ans, spécifiquement sur ces questions. La guerre dans les Balkans, elle a été un tournant, je pense, pour deux raisons. Un, c'était aussi proche de l'Europe, en Europe, donc elle nous a, je pense, beaucoup plus marqué. Moi, elle a marqué toutes mes études de droit. Mmh. Et puis au même moment, il y a eu le Rwanda, et surtout dans ces deux conflits, les viols ont été systématiques. Moi, je répète toujours, en Bosnie, il y a eu des camps de viols. Les camps de viols, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mettait des femmes et qu'on les violait à répétition pour, on disait, purifier la race, donc des femmes bosniaques musulmanes, pour qu'elles mettent au monde des enfants avec du sang, entre guillemets, serbe. Au Rwanda, le viol a été reconnu comme un élément de génocide. Et là, en fait, il y avait une politique de violer les femmes pour les tuer ensuite. Donc c'est là où il y a eu une bascule. Et effectivement, il y a eu les deux tribunaux pénaux internationaux qui ont condamné assez fortement le viol comme élément de crime de guerre, crime contre l'humanité et génocide.
Mais c'est une bascule, Céline Bardet, dans les actes que vous décrivez, dans l'horreur des actes que vous décrivez, ou bien, dans le fond, c'est une prise de conscience qui surgit peu à peu dans ces années-là?
Alors moi je pense qu'en réalité c'est une prise de conscience, internationale, c'est une prise de conscience publique aussi, puisqu'on a tous vu à cette époque les médias. Les viols, je pense qu'ils ont toujours existé, je pense que le degré de barbarie d'utilisation des violences sexuelles a certainement toujours existé. La différence c'est que d'une part nous n'avions pas les moyens dont nous disposons aujourd'hui, d'autre part je pense aussi que ce n'était pas un sujet. Donc en fait la bascule dans les années ensuite 2000, 2010, 2010 et jusqu'à maintenant, c'est que là, on se rend compte que c'est un sujet qu'il faut aussi regarder au même titre que les pillages, les meurtres, les exécutions, etc. C'est ça un petit peu la bascule qu'il y a eu.
L'autre tournant important, Céline Bardet, il se passe en 2002, puisque depuis cette date, viols et violences sexuelles sont intégrés dans la définition des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité sur lesquels la Cour pénale internationale peut statuer. Qu'est-ce que cela change très concrètement ?
Alors, d'abord, il faut préciser que le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, donc qui a été monté en 93, et celui pour le Rwanda, pardon, en 94, intégraient dans ses statuts les violences sexuelles comme élément de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Simplement, la Cour pénale internationale, qui a une vocation plus globale, l'intègre de manière très claire. Je rappelle aussi que quand on parle de viol, hein, on parle de plein de choses différentes. Dans la tête des gens, il y a viol, mais par exemple, humilier quelqu'un, je pense à Shani Luk, dernièrement en Israël, qui a été paradée sur un camion à Gaza, nu, c'est constitutif de violence sexuelle. Mais aujourd'hui, ce que ça change, eh bien, c'est que nous avons un cadre juridique et le travail d'un enquêteur ou le travail qu'on fait, c'est de ramasser les faits et de voir dans quelle mesure ils rentrent dans cette qualification juridique. Si on ne qualifie pas les crimes, on ne peut pas les poursuivre.
Vous avez commencé à mentionner, Céline Bardet, le travail d'enquête, votre travail d'enquête. En l'occurrence, lorsqu'un conflit est en cours, sur quoi se fonde-t-on, sur quoi s'appuie-t-on pour mener une telle enquête ? On sait notamment que les témoignages sont particulièrement difficiles à récolter.
Alors voilà, d'abord les témoignages sont difficiles à récolter, même si, vous savez, moi je suis énormément sur le terrain et qu'il y a, quand on crée un espace de confiance, quand on n'arrive pas en disant bonjour qui a été violé, pardon, mais c'est en fait quand on approche les choses de la bonne manière, vous savez, les personnes elles parlent quand même, mais on est dans des situations, et je reprends Israël, mais par exemple Rwanda, où quand toutes les personnes ont été tuées, ben on a un problème parce qu'on n'a pas de témoignage. Mais la preuve des violences sexuelles, et moi d'ailleurs, je lutte pour dire ça, il faut qu'on arrête aussi de s'appuyer, de penser qu'on ne peut s'appuyer que sur les témoignages. Il y a plein d'éléments corroboratifs. Trouver des femmes, par exemple, mortes, qui sont nues ou avec leurs dessous mis dans leur bouche ou dans des positions humiliantes, etc. On sait que ce sont des faisceaux d'indices de violence sexuelle. Il y a les témoignages indirects de gens qui peuvent avoir vu ça. Donc, il y a plein de manières, en fait, de prouver ces viols et de les établir. Et c'est important aujourd'hui parce que, comme vous le voyez, comme moi, comme tout le monde, nous vivons dans une société aujourd'hui de communication, de réseaux sociaux. C'est important d'établir les éléments pour que les choses soient marquées, étayées et non pas alléguées.
Vous nous dites, hein, quand on s'y prend bien, les personnes parlent, les victimes parlent. En l'occurrence, parmi les victimes du 7 octobre, très très peu ont parlé. Est-ce à dire que les enquêtes, les choses ont mal été conduites ?
Alors, Israël, la situation du 7 octobre, elle est un petit peu complexe parce qu'on est face à un pays, Israël, qui est extrêmement bien, qui a des institutions, de police, de justice qui sont extrêmement performantes. Mais je crois qu'Israël, c'est singulier parce qu'il y a eu un trauma énorme, une attaque d'une ampleur quand même assez inédite, en une journée, 1200 morts. Donc imaginez-vous ça, pour n'importe quel pays, c'est compliqué à gérer. Donc ils ont eu, je pense, du mal au départ à faire les rapports médico-légaux. On constate qu'en fait, il y a très peu de rapports médico-légaux, par exemple, et la complexité s'ajoutant que beaucoup de femmes ont été tuées, donc on n'a pas de témoignages. Est-ce qu'aujourd'hui en Israël, il y a des survivantes de ces viols du 7 octobre ? Moi, je ne le sais pas. En tout cas, si elles sont là, elles ne parlent pas. Je pense qu'il faudra du temps, et c'est pour ça que je redis, c'est important. Ça ne nous empêche pas, c'est ça qu'il faut retenir, d'établir les faits. Il faut aller regarder ailleurs et il faut se rappeler aussi que le temps de la justice, le temps de la parole des victimes, ça n'est pas celui des médias, ça n'est pas celui de l'instantanéité. Et donc nous verrons, s'agissant d'Israël, s'il y a eu des survivantes ou pas.
Comment définir la responsabilité du viol en temps de guerre ? Est-ce que la responsabilité revient d'abord et avant toute chose au soldat isolé qui commet le crime ou au commandement qui le permet ?
Alors ça, c'est une très très bonne question et c'est la plus complexe. Enfin, c'est très complexe d'y répondre. D'abord, moi, je pense que le plus important, enfin le, oui, le plus important, c'est la responsabilité de commandement. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que on parle pas. Ça peut arriver aussi, hein, faut pas l'oublier. Mais souvent, dans les conflits, on voit que c'est systématisé. Systématisé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est répété. Israël, c'est dans 3 endroits. Le Rwanda, ça a été sur tout le territoire. L'Ukraine aussi. Donc, il y a forcément une planification. C'est les personnes qui organisent et planifient ça sont les premiers responsables. Les auteurs directs, c'est-à-dire qui commettent ces violences, bien évidemment aussi. Mais je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus si on veut éradiquer cela, à remonter les causes et l'organisation qui est faite par, par les personnes à la tête des armées, à la tête des milices, parfois à la tête des États.
On a vu hein, sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises des soldats israéliens qui manipulaient des soutiens-gorge de femmes gazaouis. On a vu aussi des extraits de vidéos avec des Palestiniens qui étaient laissés longuement dans la durée nus. Est-ce que là encore cela peut être qualifié comme crime de guerre ou comme harcèlement sexuel ?
Tout à fait. En fait, tous ces éléments, dont certains, moi, me concernant, je n'ai pas encore vérifié hein, l'authenticité, mais je les ai vus comme vous. Mais par exemple, les Palestiniens qui ont été laissés dénudés pendant des heures, ça, je pense que c'est tout à fait établi, c'est constitutif d'une violence sexuelle. C'est pour ça que je vous disais que le viol, il englobe toutes les formes de violence sexuelle liées au conflit. Et s'agissant d'Israël-Gaza, et comme toutes les situations d'ailleurs, il faut regarder partout. Le 7 octobre est évidemment un événement quand même entre guillemets à part hein, d'une barbarie extrêmement violente, mais ce qui se passe aujourd'hui à Gaza doit être aussi enquêté. Mais et c'est ce que nous faisons aussi, hein, je précise. Mais c'est compliqué parce qu'on ne peut pas accéder à Gaza. Mais tout ça, oui, est constitutif de violences sexuelles. Le dénuder les gens, l'humiliation, les mutilations. Par exemple, génitales, y compris génitales, de femmes ou d'ailleurs d'hommes. Je rappelle aussi que les violences sexuelles, si elles concernent en majorité les femmes et les filles, elles sont aussi parfois utilisées à l'encontre des hommes. Il faut bien comprendre que c'est une arme et qui est, moi je dis souvent, comme une kalachnikov. À un moment, un soldat, un milicien, il décide qu'il a une grenade, une kalachnikov et le viol pour accomplir ces actes de terreur. C'est en fait aussi simple que ça.
Merci beaucoup Céline Bardet de ces explications importantes. Je rappelle que vous êtes juriste internationale, spécialiste des questions de crimes de guerre et fondatrice de l'organisation non gouvernementale Nous ne sommes pas des armes de guerre. Il est 7h18.